dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc, on vous a toujours incité de dénoncer publiquement toute forme d'abus ou d'injustice afin de ralentir ce phénomène dégradant qui se propage à une vitesse de lumière. Donc, les cibles sont des citoyens ordinaires, bien visés, choisis et sélectionnés par le regard du pouvoir abusif. L'injustice est une catastrophe, comme vous le savez, une souffrance qui n'a pas de terme, sinon un goût amer qui accompagne la victime des mois, des années et des fois toute une vie. Et vous avez tous suivi cette semaine, à titre d'exemple, cette femme qui est sortie de son silence après 6 ans et demi pour dénoncer des policiers qui l'ont mis nu, attaché au barreau d'une cellule. Une autre raconte le même épisode à l'émission du faux négociateur. Donc l'événement s'est produit il y a 3 ans selon la victime. Les policiers donc lui ont enlevé son pantalon dans la cellule et quand elle a réclamé du papier mouchoir pour suyer le poivre de Cayenne de ses yeux, ben, écoutez, ils lui ont répondu « T'as de l'eau, là, la chienne » en pointant la cuvette. Si je ne me trompe pas, les deux femmes étaient acquittées de toute accusation. Presque à chaque semaine, maintenant un scandale impliquant la brutalité des autorités policières. Il surgit en surface. Ça devient de plus en plus inquiétant. En parallèle de tout ça, rien qui bouge réellement pour redresser ces dérapages. On se demande tous pourquoi un tel traitement ? Pourquoi une telle humiliation ? Pourquoi l'être humain n'a pas le minimum de respect dans cette putain de société ? Qui sont ces policiers qui se sont au-delà de la loi ? Mais de quelle loi je parle ? La loi du fort ou la loi du faible ? Vous voyez, mes chères auditrices, chers auditeurs, ces femmes-là, et combien d'autres n'ont jamais pensé qu'un jour leur destin soit croisé entre les mains de ces putains de policiers ? Nous sommes tous objets d'un tel abus, d'une telle humiliation. Voulez-vous être la prochaine victime ? Croisez les bras et attendez votre tour. Au micro avec vous ce matin, Adjazitouni, un militant du MAJ, un mouvement de défense des droits de la personne face au système judiciaire. Si vous êtes témoin ou victime d'abus de pouvoir, et si vous souhaitez partager avec nous cette descente à l'enfer, nous sommes à votre disponibilité. Appelez-nous au 514-273-4302, 273-4302, ou écrivez-nous à info@commercialmaj-quebec.com, info@commercialmaj-quebec.com. Restez à l'écoute. Après notre thème musical, nous revenons avec vous, mes chers auditrices, chers auditeurs, avec notre sujet d'aujourd'hui, un sale voyage dans l'histoire des Québec qui n'a jamais fini.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond, la malheureuse a-t-elle a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Rebonjour chères auditrices, chers auditeurs. Donc revenons à notre sujet d'aujourd'hui, un sujet très délicat qui relève d'une grande injustice historique qui demeure malheureusement, comme vous allez le constater, et qui peut avoir dans le futur des répercussions majeures sur l'histoire du Canada et particulièrement du Québec. Donc nous avons eu la chance il y a quelques mois d'ouvrir cette plaie douloureuse, attention encore saignante à nos jours, puisque la voix de certains témoins victimes plaignant va pousser tout à l'heure un cri d'alarme d'une souffrance et d'une injustice en répétition perpétuelle. Donc nous avons eu le privilège de rencontrer ces victimes sur ce même plateau le 26 juillet 2010, l'année passée, et combien leurs témoignages étaient choquants, désolants, révélateurs d'une mauvaise foi qui se succède d'un gouvernement à l'autre. Mais bref, donc vous allez comprendre pourquoi un rappel de nouveau de cette sordide histoire est jugé indispensable. Nous sommes devant des personnes fragiles, persécutées par le temps, puisqu'ils sont âgés et chaque jour contre dans leur combat. Ils sont devant moi et je peux vous affirmer que personne d'entre eux ne jouissent d'une santé prometteuse. Vous êtes sûrement en train de demander qui sont ces gens-là. Voilà donc ce qui m'amène à faire un survol sur la période la plus sombre de l'histoire du Québec, les orphelins de Duplessis. Et pour les gens qui n'ont pas une idée claire sur cette histoire, ça sera l'occasion de la saisir dans ce court extrait. Donc, revenons rapidement aux années 30. Le premier ministre du Canada à cette époque était Louis Saint-Laurent. Et au Québec, l'Union nationale fondée par Maurice Duplessis en 1935, portée au pouvoir en 1936. Donc à cette époque, comme vous le savez très bien, c'était l'Église qui contrôlait l'éducation, les hôpitaux, les orphelins et d'autres services sociaux bien sûr, et elle encourageait fortement la population à voter pour le parti de l'Union nationale. Là, vous comprenez pourquoi Maurice Duplessis est demeuré Premier ministre jusqu'à sa mort en 1959. Donc au retour, celui-ci défend farouchement la position de l'Église, entre autres, bien sûr, et il s'opposait aussi fermement à l'adoption du programme fédéral des allocations familiales qu'il disait être une atteinte à l'autonomie provinciale et à la conception chrétienne de la famille. Conclusion. Donc, il y avait intérêt entre le politique et l'homme de l'Église. Chacun tire profit de la situation.
Donc allons directement à notre sujet d'aujourd'hui. Donc nous sommes dans une époque d'après-guerre, c'est un peu le chaos, le désordre. Les conditions de vie étaient pénibles, même extrêmement difficiles. Et voilà que des enfants naissent hors relation du mariage, ou presque. Donc la pauvreté était créée d'une sorte d'une anarchie sociale qui se tenait hors tout contrôle. Et il fallait que l'Église se prononce et durement. Son autorité était un peu ébranlée. Donc elle va déclarer tout enfant né d'une relation hors mariage un enfant illégitime. Et ces enfants-là étaient baptisés les enfants des péchés. Donc encore plus, selon l'Église de cette époque, ces enfants représentaient la honte de la famille et il fallait se débarrasser d'eux. Donc les mères n'avaient pas le choix d'abandonner leurs enfants à la naissance. Donc voilà justement la création des orphelinats sous la tutelle de l'Église. Mais à un moment donné, ils étaient tellement nombreux, ces enfants-là, que les sœurs de l'Église, à travers le clergé, ont demandé au gouvernement de Québec d'intervenir auprès d'Ottawa pour avoir de l'aide financièrement. Ottawa avait refusé puisque les orphelins n'étaient pas sur leur juridiction. Par contre, elle reconnaissait les débiles mentaux, les déséquilibrés mentaux, autrement dit. Et c'était l'erreur impardonnable qui s'est déclenchée au milieu d'une série d'injustices. Tous les orphelins de cette époque étaient déclarés des débiles mentaux, des alignés, des fous, pour que le fédéral venait à leur secours. Vous voyez à peu près à quel point la bêtise humaine peut être poussée à son extrémité. Alors, du jour au lendemain, les institutions qui s'occupaient de ces enfants sont rapidement converties à des centres psychiatriques. C'est comme ce n'était pas assez pour ces enfants victimes de la connerie humaine qu'on va les dégrader davantage. On parle ici d'un crime contre l'humanité. Ils étaient des milliers, ces enfants-là. Aujourd'hui, il ne reste pas beaucoup. Nous avons quelques-uns, ces enfants, vieux peut-être aujourd'hui, vieux surtout de lourds souvenirs d'un héritage qu'ils n'ont jamais choisi. La majorité de ceux qui sont devant moi, dans ce studio, aujourd'hui ont refusé l'offre du gouvernement du Québec qui a offert 15 000 $ à la plupart de ses victimes. Pourquoi ? Afin de tourner la page. Afin de ne plus parler de cette époque. Afin d'oublier le passé et de tourner vers l'avenir. Mais quel avenir ce putain de gouvernement parle-t-il ? De quel avenir ce gouvernement parle-t-il ? Nous sommes devant des gens qui ont laissé largement la vie derrière eux. Il n'y a plus d'espoir. Sinon, une justice dans un souffle final. Écoutez, chaque jour, l'un de ces victimes, si ce n'est pas plus, s'éteint dans l'ombre. Il meurt dans la misère et je suis témoin. Leurs 6 jours sont comptés. De vieillesse, de maladie, de souffrance, de souvenirs et de regrets qui les harcèlent, les empêchent de finir leur vie en paix. Un des meilleurs de nos politiciens, soi-disant, l'ex-premier ministre Lucien Bouchard, disait en mars 1999 à ce propos, « C'est un regard tourné vers l'avenir qu'on cherche plutôt que vers le passé, compte tenu que le passé, il faut l'effacer par des excuses. Et j'aurais aimé que c'était lui qui était enculé par ces dizaines de prêtres pédophiles, exploité dans les fermes 18 heures par jour au lieu de ses enfants innocents. Peut-être il a pu trouver autre chose à dire un peu meilleur pour défendre ses orphelins. » Écoutez, nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons directement avec nos invités de ce matin. Des orphelins de Duplessis qui ont refusé l'offre du gouvernement. Il s'agit d'un montant d'environ 15 000 $ offert aux victimes qui acceptent de tourner la page et de ne plus jamais parler de cette histoire. Ne plus parler de cette histoire. Comme c'est tellement beau tout ça. Est-ce que c'est trop demandé que le gouvernement du Québec s'assoie avec ses victimes autour d'une table de négociation? Est-ce qu'après tout ce qu'ils ont vécu, ont-ils finalement le droit de mourir en paix? Écoutez, beaucoup de questions et très peu de réponses. Après une courte musicale, écoutons les victimes de la période la plus sombre de l'histoire du Québec se prononcer.
Mmh. nos yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, parce que je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait, c'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice? Je suis né dans cette caravane, mais nous partons, allez viens. Mes os sont dans le vent. Je suis né dans cette caravane, et nous partons, allez viens.
Voilà donc, bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Écoutez, autour de moi ici dans le studio, j'ai Monsieur Jean-Guy Labrosse, considéré par plusieurs comme la mémoire vivante de cette période sombre de l'histoire du Québec. Il est donc orphelin, victime, témoin, et il a escaladé un parcours jamais choisi, avec beaucoup de courage et de détermination pour arriver à devenir l'écrivain qu'il est aujourd'hui. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, entre autres « Ma chienne de vie » en 1964, « L'orphelin esclave de notre monde » en 1978, « L'Holocauste des orphelins sous le régime de Duplessis », ça c'était
en 1983,
merci. Donc il dénonce chaque occasion, ça veut dire qu'à chaque occasion il dénonce le silence incriminant le gouvernement du Québec et celui du Canada. Il est parmi nous ce matin pour parler justement de son combat. En face de moi aussi, j'ai M. Lionel Lambert, une autre victime qui vient juste d'obtenir son congé de l'hôpital après une opération chirurgicale. Donc il a insisté d'être présent à cette émission malgré le risque pour ne faire part de ses inquiétudes envers ce gouvernement qui préfère de ne plus ouvrir la trappe. Mais l'histoire, elle va-t-elle les attraper dans un détour, dans le détour. Oui ou non, c'est à vous de juger tout ça. J'ai aussi, en face de moi aussi, M. Sylvain Lepage. Donc c'est un membre bienfaiteur de la cause des orphelins de Duplessis. Il suit le dossier depuis une vingtaine d'années. Et finalement, à côté de moi, j'ai M. Henri Barnabé, victime du même sort. Donc il est le seul qui a accepté, pas le seul ici autour de moi, qui a accepté l'offre du gouvernement. Il va peut-être nous dire peut-être pourquoi il a accepté cette offre et s'il le regrette aujourd'hui ou non. Monsieur Barnabé est un bénévole de la première heure, donc il la consacre et il consacre présentement même sa vie à aider les autres. Voilà, donc nous allons commencer peut-être avec vous, Monsieur Barnabé. Avez-vous accepté l'offre du gouvernement et vous avez signé la quittance, si je ne me trompe pas? Normalement, le problème est réglé pour vous. Qu'est-ce qui vous a incité à venir aujourd'hui pour participer à cette émission qui dénonce plutôt les injustices? Est-ce que c'est votre cas, monsieur?
Moi, aujourd'hui, je viens justement pour vous dire qu'il y a eu le décret 1198-206 le 18 décembre 2006. Je me suis fait opérer, j'ai passé au feu, je me suis fait opérer, on pourrait dire, en 2005. Et puis, qu'est-ce qui était arrivé? Justement, j'avais pas le choix, j'étais à peu près de ma maison. Et puis en 2007, j'étais pas prendre ma maison.
Vous êtes en train de nous dire que vous étiez obligé d'accepter l'offre parce que vous n'avez pas les moyens.
Ouais, j'ai passé au feu. Fait oui. En 2007, ben là, j'ai été obligé de prendre l'offre. Oui. J'avais pas le choix. Et puis aussi, je savais que le décret, pas le décret, mais la lettre d'entente n'était pas bonne. Mais par rapport que le gouvernement, il était pas dans le fédéral, il était pas dans le décret. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il nous disait qu'on était, il y avait un prérequis que Bruno Roy nous disait que dans l'Ouest canadien, on pouvait aller actionner le fédéral à l'Assemblée du 30 juin 2001. Fait que moi, j'avais toujours l'intention d'aller actionner le gouvernement fédéral en 2001 par rapport que, justement, Bruno Roy nous avait dit ça. Mais qu'est-ce qu'on s'est aperçu quand on a fait la lettre d'entente?
Oui.
Elle a été faite le 25 février 2002.
Oui.
Donc, à dire du mois de juin, ça fait à peu près, disons, 6 mois qu'elle a été faite par après. Et puis, nous autres, on a signé juste, on pourrait dire, qu'est-ce que M. Roy disait.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a pas dit, on pourrait dire, il a pas voulu dire la raison pourquoi
oui.
qu'il mettait le gouvernement dans le décret, le gouvernement fédéral. Fait que moi, aujourd'hui, je suis peiné parce que je suis pas... Il me semble que j'aurais le droit d'actionner le gouvernement fédéral oui. pour cette raison, parce qu'il n'était pas dans le décret de 2001.
Oui, Monsieur Barnabé, ce que je veux savoir, peut-être une seconde question, c'est que vous avez été abandonné, vous étiez arraché de votre mère biologique à la naissance, si je ne me trompe pas.
Oui, moi j'ai
Et vous avez vécu toute votre vie dans les orphelinats et tout, vous avez travaillé sur les fermes et tout.
Jusqu'à l'âge de 12 ans.
Jusqu'à l'âge de 12 ans. Ouais. Et ça veut dire que toute une vie, et pensez-vous que toute une vie, coûte l'offre de 15 000 $ couvre cette récompense? Toute une vie violée, perdue, une enfance, une adolescence et une...
Non, c'est très ridicule, je vais te le dire.
Parce que je me trompe, comment vous avez accepté 15 000 $ pour une vie?
Comme je te dis, je venais de me faire opérer pour le colon.
Oui.
Et puis aussi, j'avais eu le feu. Et puis là, oui. j'étais à perdre. Au moins, ça, oui. ça m'a... ça m'a donné l'existence, mais j'aurais... Même j'ai hésité, mais que si j'avais pas le choix, parce que j'avais des enfants, puis j'avais encore ma femme, que je pensais à elle aussi. J'étais obligé de le prendre. J'avais pas de choix.
Vous avez pas le choix.
Non.
Mais aujourd'hui, ça s'est répété. Est-ce que vous allez l'accepter?
Ben, c'était comme dans ce temps-là, je l'aurais
foutu. J'avais pas le choix. C'était vraiment vous.
Aujourd'hui, je l'accepterai pas, mais dans ce temps-là, j'ai été obligé de l'accepter.
Je retourne un petit peu, je vais revenir avec vous, M. Barnabé. Je vais parler maintenant avec Jean-Guy Labrosse. M. Jean-Guy Labrosse, vous avez écrit plusieurs livres, comme on sait, d'ailleurs qui témoignent de l'atrocité du réel vécu, et vous avez refusé l'entente avec le gouvernement de Québec. Pourquoi?
Jusqu'à date, j'ai refusé 2 ententes. Oui. La première entente, c'était pour le premier groupe qui était l'école de psychiatrique, qui était de 21 000 selon le nombre d'années qui était en institution. 21 750. Oui. Et il était normal que je refuse parce que d'abord, quand on a parlé du décret et de la quittance, on n'a jamais détaillé de A à Z ces deux formulaires-là. C'est que
quand vous disiez,
on demandait aux orphelins plutôt de faire confiance à Bruno Roy comme Yves Lauzon qui était impliqué dans la GAMIC avec les policiers de la droite qu'on appelle que ça soit Bernard Landry, que ça soit Lucien Bouchard, comme Charest, un capoté de marde, là, Charest d'aujourd'hui, là. Puis il serait le temps qu'il soit mis à quelque part, ce gars-là.
Oui, mais je veux savoir, est-ce que pouvez-vous nous dire, que, je ne sais pas, comment vous avez vécu de toute la souffrance, vous avez vécu depuis votre enfance et tout, et peut-être jusqu'à présent, là, en quelques mots, là, vous étiez abandonné à quel âge
Moi, j'étais abandonné une heure après que je suis venu au monde. Je suis venu au monde au 1435 rue à Montréal.
Une heure après, vous étiez...
Non, la minute. Ma mère biologique ne voulait pas signer l'abandon.
Elle n'a pas accepté.
Là, ils ont dit à elle, vu que vous êtes une fille mère,
oui.
Si vous refusez de signer l'abandon de votre fils, qui est Jean-Guy Labrosse, oui. Ben, je vais faire pas ce nom-là, là, oui. Vous serez pointé comme une putain dans la paroisse Saint-Jacques à Montréal.
Oh my God.
Bon.
Ça dérive.
Et c'est là qu'elle l'a signé en pleurant. Ça, elle, c'est pas la menterie. Ça a été confirmé en 96.
Vous abandonnez, ça, tu
vois. Ben, elle n'a pas le choix.
Oui.
Parce que celui qui l'a parti en scène, il a collé son camp dans l'Ontario.
Et mais de là, vous n'avez jamais vécu votre mère biologique jusqu'à...
Il sait qu'il y avait une politique au Québec.
Oui.
Qu'une fois que l'abandon a été signé,
oui.
Il était interdit, mais en devenant adulte, d'essayer de connaître notre passé, pourquoi qu'on ne peut pas avoir les registres,
oui.
Du nom de la mère biologique qui t'a mis au monde. Eux autres, le centre métropolitain, c'est le pire centre catastrophique. La PDG, vous savez comment que ça marche avec les enfants mal nés d'aujourd'hui. Moi, là, c'est la déchéance qui est en train de se passer au Québec, là.
Oui.
Pourquoi tu vois les colistes de politiciens de la droite qui cherchent toujours à avoir le dernier mot,
oui.
Chercher à protéger les proches, oui. D'eux autres?
Mais
celui qui est trop honnête, lui, là, fuck you.
Ouais. Mais je veux savoir, je sais que c'est quand même énervant et tout, mais monsieur, après l'abondance de votre enfance et tout, le survol, là, vous étiez sur les fermes, vous avez vécu votre enfance comment, votre adolescence comment,
bon.
Juste pour faire un rappel à la population. Hein.
Là, moi, je vais être franc avec vous autres.
Oui.
À 9 ans, tout enfant qui était donné à ces institutions-là,
oui.
C'est eux autres qui faisaient l'entretien. Laver le plancher, serrer le plancher, si tu refusais, tu avais une bolée.
Oui.
L'éducation, l'instruction était limitée.
Oui, oui.
Bon. Si on prend le cas du Mont-Prêtre, dans ce cas, ça a été converti en centre psychiatrique.
Oui, oui.
Bon. Pourquoi qu'on n'a jamais dit, par rapport au public, pourquoi cette institution-là a été convertie en centre psychiatrique?
Oui.
C'est que les sœurs de la Providence, pour eux autres, une pièce et 47 par jour par tête, c'est 4 mois payant pour eux autres.
Oui.
Alors, en convertissant le centre, le Mont-Prévidence en centre psychiatrique, ça leur donnait 2 $ de plus à une condition qu'on transfère ces enfants légitimes-là à la curatelle publique.
Oui.
Ah. Alors, Duplessis a signé, le cardinal Paul Émile Léger, qui était l'arbitre de la congrégation des salles de la Prévidence,
oui.
Pour terminer avec Louis Saint-Laurent.
Oui.
Bon. Une fois que tous les ententes ont été négociées entre les trois...
Pour vos vacances au juste prix, 1-855-MINI-PRIX ou 1-855-646-4774. Une agence de voyage d'ici vers tous les pays. 1-855-MINI-PRIX. Service sans souci, toujours au juste prix. 1-855-MINI-PRIX ou 1-855-646-4774. Détenteur d'un permis du Québec. Voyage, voyage!
Bonjour à vous et bienvenue dans votre magazine favori. Comme à chaque semaine, Émilie nous parlera de sport et Mathieu de science.
Et toi, Steve, tu vas encore nous parler de culturel et de social.
Exactement, Mathieu.
Sans oublier nos collègues Mélodie et Dino avec la fameuse chronique humanitaire, économique et montréalaise.
Et on commence tout de suite avec...
Pour entendre la suite, rendez-vous tous les vendredis 11h30 pour 1h30 d'informations et de divertissements.
Le magazine du vendredi, c'est seulement sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Emploi?
Actu.
Relations de travail.
Formation.
Diplôme.
Compétences.
Apprentissage.
Formation.
Emploi.
Actu.
Les lundis de l'emploi, c'est tous les lundis de 8h à 9h sur Radio Centre-Ville.
Pour l'intégration de tous sur le marché de l'emploi au Québec et au Canada. Et c'est animé par Gwen.
Que vous soyez charpentier, soudeur ou cuisinier.
Bon appétit!
Si vous suivez une formation d'apprenti dans l'un des 53 métiers désignés Sceau Rouge, vous pourriez obtenir jusqu'à 4 000 $ en subvention du gouvernement fédéral. Une aide qui pourrait faire toute la différence. Faites votre demande dès aujourd'hui à plandaction.gc.ca/apprenti ou composez le 1-800-AU-CANADA. Un message du gouvernement du Canada.
Radio Centre-Ville, depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Excusez-nous, là, c'était la publicité qui a intervenu directement. Donc, on va reprendre notre sujet avec Monsieur Jean-Guy Labrosse. Rebonjour, Monsieur Jean-Guy Labrosse. Voulez-vous reprendre d'où vous êtes arrêté?
Bon, quand on a converti le Mont-Prévence en centre psychiatrique, qui était plus payant pour...
Vous avez dit $2 de plus pour chaque enfant,
ça, oui? Ça, à une condition qu'on transfère ces orphelins-là, ça curatelle publique.
Voilà.
Bon, il y avait Duplessis qui négociait avec le fédéral, qui était Louis-Saint-Laurent dans cette époque-là, et l'arbitre pour cette institution-là, c'était le cardinal Paul-Émile Lévy.
Voilà,
ça c'était clair. Il y a Marcel Grabel, là, en tout cas, ça serait trop long de te l'expliquer, ouais, c'est une femme...
Plus court, oui, vas-y. Ouais.
Bon. Là, de là, une fois, tous les ententes ont été négociées. C'est là que tous les orphelins du Mont-Prévidence, en août 54, apprenant la mauvaise nouvelle, que vous êtes plus reconnu comme un monde qu'on appelle normal.
Normal, oui, ça
veut
c'est
dire, vous appartenez à la curatelle publique.
C'est tout à fait, oui.
Puis, vraiment, là, ça a été l'enfer pour plusieurs. Parce que je me rappelle, moi, c'est de là qu'ils ont commencé à transformer les départements.
Là, vous avez quel âge dans cette période-là?
Moi, j'avais...
7-8 ans?
54, 14 ans et demi.
14 ans, ok, c'est
ouais,
bon, oui.
Ouais. Bon, mais j'étais rendu à 15 ans. Là, de là, c'est là qu'on nous a envoyé. Burubé a fait une demande pour avoir des orphelins pour travailler comme chief labor pour le foyer Saint-Luce.
Oui.
Il les a obtenus. Et de là, quand on a travaillé...
Donc, au besoin, on fait une demande et puis on peut obtenir des enfants pour travailler sur les...
La demande était faite au ministère des Affaires sociales.
C'est ça.
Et aussi la Santé du Québec.
Et mais ça, il n'y avait pas de problème avec ça. On peut livrer le nombre qu'il veut,
c'est ça? Oui, parce que là, nous autres, on n'était plus maître de notre destinée.
Oui.
Bon, c'est de là qu'ils ont profité aussi en même temps, c'est bien important de le mentionner, que les compagnies de produits pharmaceutiques avaient besoin des cobayes. Oui. Alors, on a sélectionné des orphelins lucides. Je dis bien des orphelins lucides comme cobayes.
Oui.
Parce qu'une personne qui est en crise... Néant. Il ne pouvait pas avoir de résultats sur les drogues qu'on testait sur ces individus-là.
Oui. Mais quand vous parlez de drogue, vous parlez de...
Mais de nouveaux médicaments.
Ah, des nouveaux médicaments. Ouais. Ouais.
Ça veut dire que le gouvernement avait bien dit à ces compagnies-là, si l'orphelin meurt d'une surdose de cette drogue-là, vous n'êtes pas responsable. Ces enfants-là appartiennent à l'État. Alors, on vous le donne... Au lieu de vous baser sur des animaux, on vous donne des cobayes humains. Et testez vos drogues sur des orphelins lucides.
Mais peut-être qu'ils l'ont dit autrement, mais c'était le cas. C'est ça ce qui est important.
Ah non, c'est la vérité. Là.
C'est ça, je doute pas, là. C'est ça la vérité. Ça veut dire,
parce que moi,
est-ce qu'il y avait des cas, il y avait des morts à votre souvenir?
Sur le côté, dans mon époque, sur le côté des drogues, ça, je ne peux pas te le prononcer.
Oui, non.
Me prononcer. Mais il y a eu des suicides.
Oui.
Parce que quand l'orphelin est rendu au quota, au bout
épuisant,
parce qu'il savait que lui, là, qu'on appelle, il avait plus de droit à s'exprimer, ses versions ou sa propre défense n'avait aucune valeur pour les ceux qui contrôlaient.
Donc, ils testaient des médicaments sur les enfants, les orphelins, c'est ça?
Oui, lucide.
Je reviens un petit peu, peut-être maintenant, à M. Lionel Lambert, qui est aussi orphelin pendant votre enfance. Et vous avez subi plusieurs agressions physiques et morales. Et votre santé est de plus en plus fragile. Donc, pensez-vous qu'il est mieux pour vous d'oublier le passé et de penser à finir vos jours, les jours qui restent en paix, là?
On ne peut pas oublier le passé.
Pourquoi?
C'est impossible. Oui. Avec les souffrances qu'ils nous ont faites, c'est impossible d'oublier le passé, tout ça. Puis,
quand vous parlez de souffrance, vous étiez abandonné à quel âge?
Surtout que ma mère est morte à 2 ans et demi.
Oui.
Mon père, mon parrain à Hermes, près d'Ottawa et Hull. Mon père a demandé aux religieuses de... pour me reprendre.
OK, c'est ça.
Puis les religieux ont dit à mon père et à mon parrain que j'étais décédé.
Pourquoi?
Je ne sais pas, mais j'avais 2 ans et demi. Puis ma mère avait...
Vous avez déclaré déjà décédé?
Oui.
Oui.
Ma mère, quand elle est morte, avait 26 ans.
Oui.
Puis ils nous ont ballottés d'un bord puis de l'autre.
Oui.
On nous a massacrés, on nous a eu des violences... dit dans la chambre de bain... On voulait me noyer. La sœur Charlotte Lefebvre m'avait pogné.
Oui.
Dans les parties, parce qu'il y a eu de l'eau qui a volé, j'ai resté saisi. La sœur est après, la sœur Charlotte Lefebvre est après me noyer dans le bain.
Oh my God, oui.
Tout ça.
Oui, parce que vous avez fait quoi comme gaffe là, d'enfant, là, vous avez... Oui.
On était tout le temps comme ça, durant tout le temps j'étais là, j'étais 7 ans à Chambly-Bassin. Oui. On m'a déclaré des billes mentales en 1948, mais on n'a jamais vu le spicologue ou le spicard pour signer et faire ces affaires-là. Jamais on n'a vu ça.
Pour confirmer ce que ce n'était pas le cas, justement. Ouais.
Et puis, c'est là quand ça a commencé, les orphelins en 92.
Oui.
Sortir ça, je l'ai appelé plusieurs. Et c'est bon pour nous autres. C'est le temps de cracher le morceau.
Oui,
tout ça.
Vous sentez ça sur le cœur. Par exemple, je me souviens aussi, vous m'avez parlé dernièrement, vous étiez aussi agressé sexuellement à de la part du prêtre et tout.
Deux prêtres, l'abbé Paul Contant et l'abbé Marcel Turcotte.
Oui.
Je ne sais pas si ses parents avaient de la chevelure Turcotte.
Oui.
J'ai pas fait l'enquête, tout ça.
Oui.
Mais il doit se connaître, celui-là qui a fait ça.
Oui.
Ça.
Donc, pour vous, vous disiez que je ne peux pas oublier le passé. Je vis avec ça jusqu'à présent. Hein, vous...
Oui, j'ai encore des douleurs à mon oreille droite. La claque que j'ai eue au Buissonnet sur la rue Sainte-Catherine, jusqu'à aujourd'hui la place des Arts.
Oui.
Les rats, ça se promenait partout. On se faisait manger par les rats. On prenait nos douches et les rats se promenaient autour de nous autres. La couverture coulait, puis il ne l'a pas réparé. Il y a un petit garçon, un confrère qui est mort, il avait pas pris, attrapé une maladie de. Pas la tuberculose.
Tuberculose, non, oui.
Une pérésie.
Oui, oui, oui.
Puis l'eau coulait sur lui, je me levais la nuit pour le changer de place durant la nuit pour pas qu'il soit mouillé.
Oui.
Mais il est décédé à l'hôpital, le petit garçon, à l'hôpital Saint-Luc, il avait à peu près 14 ans.
Oui. Mais vous m'avez dit même, vous avez même besoin, vous aujourd'hui, vous vivez difficilement.
Oui.
Et vous avez refusé quand même l'offre du gouvernement.
J'ai refusé l'offre du gouvernement. Même Francine Fournier, elle a reçu ma lettre, elle m'a répondu.
Oui.
Moi, j'ai dit, j'embarque pas dans les affaires de corruption.
Oui.
Il y a eu de la corruption envers les orphelins et orphelines du Québec.
Oui, mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour vous, tu penses que l'offre du gouvernement n'était pas...
Non. Ça a tous été fait en cachette, ces affaires-là.
Et vous l'avez refusé jusqu'à présent, c'est ça?
Ah oui. J'ai refusé totalement la chose. J'accepte pas ça.
Oui.
On peut pas oublier le passé, la souffrance de là, on va mourir avec cette souffrance-là.
Oui. Peut-être que je passerai maintenant à Sylvain Lepage. Vous, M. Sylvain Lepage, vous avez quand même accompagné les témoins, les orphelins de Duplessis depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à appuyer cette cause-là?
Ben moi, c'est que j'ai connu Jean-Guy Lepage, j'avais rencontré Jean-Guy à un centre de soins, puis il m'avait parlé de son livre dans la cause des orphelins de Duplessis.
Difficile, oui.
Et effectivement, les cheveux mentaient assez sa tête quand j'ai lu ça.
Oui.
J'en revenais pas, et puis bon, je suis devenu bien ami avec Jean-Guy. Et par son parcours de bataille pour rendre justice à l'ensemble des orphelins, je l'ai suivi dans sa bataille. Et puis, de là, j'ai vu la fondation du comité des orphelins.
C'est vous qui a fondé, là?
C'est Jean-Guy Labrosse.
C'est Jean-Guy Labrosse, c'est ça. Mais vous étiez là avec...
qui m'a fondé, avec Hervé Martin.
Un bon fondateur.
Moi, j'avais signé comme témoin de leur...
Et pourtant comme citoyen, M. Sylvain Lepage, vous n'avez pas d'autre intérêt que d'appuyer cette cause-là. C'est-à-dire, vous pensez que c'est un devoir de citoyen?
Ben, c'est une atrocité qui est inimaginable.
Oui.
Et qu'on ne peut pas fermer les yeux comme nos premiers ministres.
Le font
présentement. Jean Charest, malheureusement.
Oui.
Qui continue à se fermer les yeux comme Jean-Guy a subi les atrocités des narcotiques, les prix de fond, 100 mg par jour de narcotiques, les avant-bras cassés.
Oui.
Et comment est-ce qu'on peut faire ça à des enfants? Puis que le gouvernement d'aujourd'hui, il y en a qui me disent, moi, j'ai rien vu, tu sais. Je règle le repos.
Je veux que vous oubliez tout ça, oui.
Ouais.
Mais est-ce qu'il est étrange?
En plus, la quittance du gouvernement fédéral, si vous me permettez, ils sont dans la quittance.
Oui.
Mais ils n'ont pas participé. Ils n'ont pas contribué.
Oui.
Alors, c'est inacceptable de voir que dans notre société, on en est rendu là et que ces gens-là ne font absolument rien pour régler adéquatement. 15 000 $, c'est encore un...
C'est une insulte pour moi, je la
considère comme une insulte. C'est un génocide par-dessus un génocide.
Tout à fait. Mais ce qui est, tu sais, dans
ça
tout
s'est
tout
passé coup... ici au Canada.
Dans votre témoignage, un petit peu, ce qui est important dans tout ça, moi, j'aurais aimé que... imaginez-vous, vous êtes un citoyen qui porte ça sur le cœur et tout. C'est des centaines et des milliers de citoyens québécois appuient la cause. Je pense que il y aura peut-être à un moment donné une justice. Écoutez, on va prendre une pause musicale de quelques minutes peut-être, et on va reprendre avec vous. Donc, rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Je reprends avec monsieur Jean-Guy Labrosse. Vous avez écrit Ma chienne de vie, l'orphelin esclave d'un autre monde, l'holocauste des orphelins sous le régime Duplessis. Ça se, tout ça, on dit que vous vivez dans un univers clos. C'est-à-dire, vous vivez toujours dans le passé. Et pourquoi vous essayez de garder ça en souvenir? Est-ce que c'est pour que personne n'oublie?
Il n'y a aucun souvenir sur ce point-là. J'ai remarqué notre monde d'aujourd'hui.
Oui, voilà.
Ils sont plus aux écoutes des policiers de la droite. Voilà. Ça veut dire des personnes de centre-gauche, ouais. Il n'y a presque pas au Québec. Alors, t'es une victime. Toi, là, t'es rien pour nous autres.
Ça veut dire vous avez jugé important que votre version, la version réelle, c'est ça qu'elle va surgir. C'est ça, je comprends que tout le monde va avoir la vraie version.
Ça va nous aider.
Oui, oui, parce que, vois-tu, moi, je donne un exemple.
Vas-y, oui.
Là, j'ai décidé de poursuivre la procureure Ségaravalle. L'affaire a été en marche.
Ouais.
Elle qui a participé à la falsification de mes déclarations avec la complicité du ministre Paul Béjean ou Serge Ménard, il y a un des deux, en tout cas je mets au banc des accusés,
oui.
Qu'ils ont rejeté les 321 plaintes. Mm-hmm. Mais oublie pas...
Ils l'ont rejeté pourquoi? Vous avez une raison?
Non. Sylvain, il a dit que c'était pas vraiment des viols.
OK, oui.
Bon, alors, on a eu beau dire clairement... Ah, en tout cas, parle Sylvain, là.
Non, c'est-à-dire que c'est Estelle Gravel qui disait que c'était des voies de fait simples.
Ouais.
C'était pas du...
Et une agression sexuelle, ce n'est pas une voie de fait simple.
Ben non, ça, je sais.
Ah, mais...
Bon,
c'est ça. C'est un crime plus grave, vous voulez dire?
Énormément.
C'est Jean-Guy Labrosse, oui?
Ben, regarde, moi, il y a une chose que j'ai découvert dans mon rapport, que j'ai réussi à l'avoir entre mes mains. On a parlé des frères Marois, de Gérard Bastion. Jamais qu'on a parlé du frère de Saint-Claude de la Providence qui est à Saint-Germain.
Oui.
Bon, on ne voulait pas inculper qu'on appelle une sœur de la Providence qui savait qu'un de ses frères était homosexuel, qui travaillait à la buanderie. Après ça, tu avais Bergeron, elle, Estelle Gravel, l'a exclu dans ses rapports. Alors, moi, je vais être franc avec vous autres. On cherche à mentir, à camoufler des faits historiques.
Oui.
Pour protéger les ceux qui ont fait partie de ce système-là. On appelle dans un sens la continuité de Duplessis qui se produit présentement. Et les péquistes, autant les libéraux, ont décidé de fonctionner en suivant le modèle de Maurice Duplessis, comment qui fonctionnait dans son époque qu'on appelle la Grande Noirceur au Québec.
Oui.
Alors, moi, j'ai c'est de valeur. Je parle avec des jeunes, là, c'est comme si je parlerais dans le vide, là. Je m'excuse.
Oui.
Pourquoi que les jeunes
d'aujourd'hui
ont de la difficulté à croire ces choses-là?
Oui.
Moi, il y a des gens qui m'ont posé la question, pourquoi que je peux pas faire un exposé dans la Notière? Bon, j'ai dit, la réponse, vous l'avez, Claude Cousineau a vendu mon âme à Marlon Landry, et j'ai les preuves.
Oui, oui.
Bon, alors, moi, de là, quand je voulais m'adresser au ministère concerné, on disait à M. Labrosse, veuillez vous adresser au PM. C'est grave, là. Le PM, c'est le gouvernement. Bon, tu sais, moi, on continue à manipuler ces gens-là, puis moi, là, je vais être franc avec vous.
Oui.
La Courchaine, elle connaît mon passé, comme bien d'autres connaissent mon passé. Bon, Thérèse Levoyrou, qu'est-ce qu'elle a fait dans le temps qu'elle était ministre des Services sociaux?
Oui.
C'est de contredire les faits. Puis là, les autres se sont enchaînés. Mackie Vancôté, Pierre-Marc Johnson, Jean Rochon, n'en voulez-vous des noms? Et pour terminer, le dernier qui est passé là, c'est... Non. Rémi Trudel.
Mais pour vous, monsieur Jean-Guy Labrosse, pour vous, c'est une page, on essaie d'arracher une page à l'histoire. C'est-à-dire, on essaie vraiment de camoufler cette histoire-là.
C'est ça. On manipule la population.
Pour ne pas montrer une image derrière les frontières.
C'est ça. Ouais. On prend ce qu'on appelle des experts.
Oui.
Bon, moi, j'ai déjà vu un policier me dit dans ma face.
Oui.
On sait comment manipuler les gens au Québec.
Oui.
Ça, c'est dans le Parti québécois qui m'a été mis dans ma face, oui. Libéraux ont fait de même. Moi, là, vous parlez de policiers. Bon, le seul policier que j'ai vu, honnêtement, oui. dans le bloc, c'est Monique Gay. Celui qui est là, Gilles Duceppe, oubliez ça. C'est un gars de la droite à l'extrême. Il a un don pour manipuler les gens du Québec.
Oui.
Et il dit qu'il est là pour les représenter. La foutaise. Ouais. Je dis honnêtement, c'est de la foutaise. Parce que moi, j'ai toujours dit, il y a des gens qui m'ont posé la question, en dehors de Monique Gay, il y en a-tu d'autres qui ont été honnêtes? Ouais. J'ai dit oui. Celle qui était dans le comté de Mercier, là, qu'on appelle, elle était à l'encontre des politiques de Jean Charest,
oui.
Nathalie Rochefort.
Oui.
Alors, quand les élections sont arrivées, ils ont dit, oui, tu ne retournes pas dans le comté de Mercier.
Oui. Mais c'est drôle.
Pas fini, oui, pas fini.
Vas-y.
Parce que le dernier, c'est Jocelyne Caron dans le comté de Terrebonne.
Oui.
Elle a fait certaines choses. Mais là, qu'est-ce qu'on a mis là? C'est un Odekis. Oui. Je communique avec Odekis qui est dans Terrebonne. J'ai vu tout ça de sa réaction, c'est un gars de la droite.
Oui.
Il est la même lignée qu'on appelle Mario Dumont, qu'on appelle.
Mais c'est...
Il a sacrifié les centrales hydroélectriques à l'entreprise privée.
Oui, mais quand même, M. Jean-Guy Labrosse, vous êtes un exemple parmi des milliers d'exemples. Ça veut dire que vous êtes un exemple qui a pu avoir un point, si on peut dire, trouver la voie de la parole, la voie d'essayer de s'exprimer, de suivre le combat et de se défendre. Mais imaginez-vous tout le reste. C'est un exemple. Et si j'avais invité chaque orphelin, il va nous raconter peut-être pire. Maintenant, je retourne un petit peu vers M. Léonard Lambert. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous avez à dire vraiment vers la fin de cette émission?
D'après moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? C'est tout à recommencer.
Comme
le décret, le gouvernement mal fait.
Oui.
C'est-à-dire les gouvernements qui sont succédés un après Bouchard.
Vous êtes en train de dire que les décrets étaient écrits et vous n'avez pas pris connaissance de ces décrets-là? Ou...
Non. J'ai même demandé à Lauzon. Puis Bruno Roy est venu rouge comme une tomate dans l'Assemblée quand j'ai dit ça. La pression, il a monté au cerveau quand j'ai dit la vérité.
Oui. Vous l'avez dit quoi?
J'ai dit que pourquoi qu'on n'a pas les feuilles à temps. Vous faites la même chose que vous avez faite aux psychiatrisés.
Oui, oh my God, oui, oui. C'est en train de nous dire qu'il y a des gens, des orphelins qui ont signé cette entente sans même avoir lu le...
C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Même, oui. J'ai dit l'année passée à M. Yves Lauzon,
oui.
après le décès de Bruno Roy, il y a eu une autre élection pour mettre un président. J'ai dit à M. Lauzon, Yves Lauzon, vous avez manqué une bonne chance de défendre les orphelins honnêtement.
Oui. C'est-à-dire que... oui, vas-y, vas-y.
Et puis j'ai dit, vous avez pris la défense de Lucien Bouchard, puis Bernard Landry sont en conflit d'intérêts avec nous autres, parce qu'ils ont des communautés religieuses dans leur famille.
C'est ça, ils ont des liens de parenté.
Oui.
C'est ça. Puis, M. Lauzon, il s'est pogné la main, les deux, mais en pleine face. Il savait plus où...
Oui. Monsieur Lepage, vous avez un dernier mot à dire à la fin de cette émission, s'il vous plaît?
Ben c'est parce que j'en ai aimé, si ça...
Non, j'aimerais bien que vous disiez un dernier mot. Qu'est-ce que vous pensez, okay. mais en quelques mots, c'est tout, parce qu'il ne reste plus de temps.
Bon. Ben, en tout cas, c'est ça. C'est
Est-ce qu'il y a bien un mot à dire aux citoyens, à tous les citoyens de Québec?
Ben, moi, je dirais d'appuyer dans... La cause des orphelins, peut-être justement en appelant le gouvernement en insistant qu'il y a vraiment une justice qui leur soit rendue.
Donc vous demandez vraiment à tous les citoyens d'appuyer la cause des orphelins déplacés qui n'est pas finie encore. Monsieur Barnabé, avez-vous un mot
Moi, je dirais que justement les orphelins qui ont signé le décret, ils n'étaient pas au courant de rien.
Ils ont signé blanc,
un chèque en blanc, parce que justement, je vous ai dit tout à l'heure que le 24 octobre, le décret est sorti.
Oui.
Après ça, il y a eu la lettre d'entente du 25 février 2002. En plus de ça, il y a eu justement la fameuse confirmation qu'il y a eu avec les autorités.
Grosso modo, cette révision signée, les orphelins ont signé.
On devra tout recommencer. Prendre.
Et qu'est-ce que vous souhaitez, Jean-Guy Labrosse, M. Jean-Guy Labrosse? Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement vous appelle, vous convaincre autour d'une table et vous essayez de négocier ça de nouveau?
Moi, je vais être sincère avec les policiers
rapidement.
De la droite, oubliez ça.
Rapidement.
Eux autres, ils veulent rien entendre parler des victimes en voulant dire on va continuer à se battre contre ces gens-là. Là. Mm. Alors, il faut que les gens se réveillent, qu'on dit publiquement, là, il est le temps qu'on reconnaît la légitimité des victimes. Point.
Voilà, donc je pense que nous arrivons à la fin. Excusez-moi, M. Barnabé. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. La réalité, comme vous l'avez observée, est constamment amère et est difficile à avaler, mais elle sert à reconstruire un avenir meilleur. Donc il faut connaître, comme on le dit assez bien, le faux pour distinguer le vrai, ainsi que le chemin se retrace correctement. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, à votre nom et à mon nom personnel, permettez moi de remercier nos invités d'aujourd'hui, M. Jean-Guy Labrosse, M. Lionel Lambert, M. Barnabé, Henri Barnabé et M. Sylvain Lepage d'avoir assisté à cette émission, de saluer aussi leur combat et nous espérons que le gouvernement du Québec reprend de nouveau des négociations pour le mois avec ceux qui ont refusé l'entente. Donc il faut presser le pas d'être juste car le temps n'épargne personne. Merci à notre technicienne de son, Mme Marion Longuet. Merci à Radio Centre-Ville, 102.3 FM, de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre, justement, existe. À moi, je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure et à bientôt.
Je marche dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville. Et je n'ai plus froid. La terre est mon amie. Et souvent je dors dessus. Je marche dans les rues. Le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville. Et je n'ai plus froid. La terre est mon amie. Souvent je dors dessus. Je marche dans les rues. Le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville. Et je n'ai plus froid. La terre est mon amie. Et souvent je dors dessus. Je marche dans les rues.
L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville présente Tant longtemps.
Tant longtemps, une émission de musique rétro agrémentée d'histoires passionnantes sur la musique haïtienne, des anecdotes intéressantes sur la vie des compositeurs, des musiciens qui ont marqué le temps.
Tant longtemps, animé par Brady Donissin et son équipe, chaque dimanche soir de 9h à 10h sur les ondes de Radio Centre-Ville.
Tant longtemps, un rendez-vous à ne pas manquer.
Bonjour, ici Claude-Marie Landré. Tous les lundis de 1h30 à 2h, je vous invite à écouter l'émission Trame sonore qui parle de musique de film, musique à l'image. Des entrevues, des découvertes musicales sont au rendez-vous. Ne manquez pas Trame sonore de 1h30 à 2h tous les lundis sur les ondes du 102,3 FM du pur plaisir.
Muñequita, psst, psst. Voltea, que no me oyes.
Sais-tu ce que cache la confection d'une paire de jeans?
Le monologue de la maquila.
Une farce musicale en 9 sessions et un acte qui raconte la vie des femmes ouvrières dans les usines maquiladoras.
Une coproduction Québec-Mexique.
Du 2 au 6 mars à 20h, le dimanche à 15h.
Au mai, Montréal, art interculturel, 3680 rue Jean-Mange. Réservation, 544-9233-8.
Et toi, jusqu'où irais-tu pour obtenir un pantalon à la mode?
Le monologue de la maquila. Toute une expérience théâtrale.
Nous représentons la réalité multiculturelle de Montréal. Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.